pra sermos felizes.
VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonsoir à tous. On commence par le Kenya. Manifestation aujourd'hui à Nairobi en l'honneur des victimes du massacre de l'université de Garissa qui a fait 148 morts la semaine dernière. Une attaque revendiquée par les islamistes somaliens d'Al-Shabaab. Les Kenyans sont à leur troisième jour de deuil national à la mémoire des victimes. Par ailleurs, la police kenyane a arrêté un sixième suspect dans le massacre et interroge désormais 5 Kenyans et un Tanzanien selon un document produit aujourd'hui par la police devant un tribunal de Nairobi. Ce tribunal a prolongé, selon l'AFP, de 30 jours la garde à vue de 5 suspects kenyans amenés devant la cour et un Tanzanien toujours interrogé à Garissa, faisant droit à une demande de la police. Jusqu'ici, les autorités kenyanes n'avaient fait état que de l'arrestation de 5 suspects et n'avaient dévoilé les nationalités que de 2 d'entre eux, un Kenyan et un Tanzanien. En République démocratique du Congo, des centaines de cadavres en décomposition découverts dans une fosse commune au cimetière de Fula à Kinshasa, la capitale. Pour le gouvernement, il s'agit de personnes indigentes enterrées par la municipalité. Mais les défenseurs des droits humains se demandent si ces cadavres ne sont pas ceux des personnes abattues par les forces de sécurité lors de la répression des manifestations anti-Kabila en janvier. Maître Jean-Claude Katende, le président de l'AZADO, l'Association africaine pour la défense des droits de l'homme.
Dans la ville de Kinshasa, il y a de plus en plus de personnes qui disparaissent et dont on ne sait pas exactement le sort. En sorte qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent que les corps qui ont été découverts sont soit liés à l'opération du Kofi qui était intervenue l'année passée, soit aux tueries qui étaient intervenues au mois de janvier de cette année. Alors, pour dissiper tous ces malentendus, pour dissiper toutes ces informations contradictoires, nous pensons qu'il faut qu'il y ait une enquête indépendante qui puisse faire exhumer les cadavres et éventuellement déterminer les conditions dans lesquelles ces personnes sont mortes.
Maître Jean-Claude Katende de l'AZADO, joint à Kinshasa par Eddy Zanko, rappelant que l'opération Likofi menée par la police de Kinshasa visait à éradiquer le problème de la délinquance dans la capitale congolaise. Insécurité croissante au Mali, 3 hommes armés ont assassiné froidement hier un agent des eaux et forêts à Diafarabé, localité à mi-chemin entre Mopti et Ségou. Au micro de Claire Morin-Jibou, écoutons le témoignage d'un résident qui préfère garder l'anonymat pour des raisons de sécurité.
Il y a 3 individus qui arrivent sur une moto. Ils étaient habillés en costume pull, ils avaient des mitrailleurs sous les costumes. Une fois descendus, ils ont enlevé les fusils qui étaient cachés sous leur tenue pour les charger. Une fois descendus, ils ont chargé les fusils. L'un d'eux s'est dirigé vers le bureau du monsieur qui était en entretien avec d'autres personnes. C'est le djihadiste qui a fait sortir les gens avec qui ils s'entretenaient. Quand ils sont sortis, ils ont commencé à tirer sur l'agent des eaux de forêt. Ils l'ont criblé de balles. Nous sommes surpris. Pour la première fois, Diafarabé a été attaqué et surtout par des djihadistes. J'ai vraiment peur. Au moment où je vous parle, je ne suis même pas chez moi. J'ai fait déplacer toute ma famille dans un endroit sûr.
Un habitant de Diafarabé au Mali. Par ailleurs, le Néerlandais libéré hier par l'armée française dans le nord du pays est arrivé aujourd'hui à Bamako. Siach Rizke, otage d'Al-Qaïda au Maghreb islamique depuis novembre 2011, a recouvré la liberté lundi à l'aube lors d'une opération des forces spéciales de la France près de Tessalit dans l'extrême nord du Mali. Au Burkina Faso voisin, le Conseil national de transition se prononce aujourd'hui sur le code électoral, le nouveau code électoral. Dimanche, plusieurs membres du CDP, le parti de l'ex-dictateur Blaise Compaoré, ont été interpellés par les forces de sécurité. La réaction de Léonce Koné, il est le président du directoire du CDP.
Jean-Bertin Ouedraogo, qui était ministre des infrastructures du gouvernement de Blaise Compaoré, le dernier gouvernement, a été interpellé. Dans le domaine de Salam Dermé, le responsable des jeunes du CDP, et de l'ancien maire de Burkina Faso, Sadia Sanou, d'un maire d'arrondissement à Burkina Faso. Donc il semble y avoir une vague d'arrestations, d'interpellations de membres de la direction du CDP. Cela m'inquiète naturellement, oui, parce qu'il s'agit de mesures de privation de liberté, sans chef d'accusation, sans que la procédure passe devant un juge, comme le prévoit nos lois. Tout cela est tout à fait arbitraire et donc évidemment cela m'inquiète. Il y a un net recul de la démocratie, il y a une espèce de fièvre que je ne m'explique pas du tout, qui semble s'être emparée des autorités de la transition, et donc je trouve cela vraiment regrettable. J'espère qu'ils vont se ressaisir et revenir à l'application de ce qu'eux-mêmes ont décidé, qui est une transition inclusive qui associe tous les Burkinabés, quelle que soit leur obédience politique, aux prochaines échéances électorales.
Léonce Conné, le président du directoire du CDP. Il est 13h04 à Bobo-Dioulasso.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Actualité américaine, l'administration Obama s'oppose à la levée des sanctions sur l'Iran dès l'entrée en vigueur d'un potentiel accord sur le nucléaire iranien. C'est ce qu'a affirmé sans ambages la Maison-Blanche, Nathalie Barge.
Le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, a déclaré lundi que les parties impliquées dans les négociations doivent encore discuter des dates de levée des sanctions.
It is the strong view of the administration.
Pour l'administration, il est évident qu'il ne serait pas raisonnable et non plus dans l'intérêt de la communauté internationale de simplement lever toutes les sanctions dès le premier jour. Nous estimons par expérience avec l'Iran qu'il est préférable d'avoir un moyen d'incitation pour que Téhéran se conforme à l'accord. C'est pourquoi nous pensons que cette forme d'approche progressive est la meilleure. Et c'est certainement en ce sens que nous allons insister, a déclaré M. Earnest, précisant que le président Barack Obama pourra revenir sur les sanctions si les Iraniens ne respectent pas les termes de l'accord.
Par ailleurs, Barack Obama a refusé et refuse que la reconnaissance d'Israël fasse partie de l'accord sur le nucléaire iranien. Le président américain a estimé que demander à l'Iran de reconnaître l'État d'Israël dans le cadre de l'accord sur son programme nucléaire serait une erreur de jugement fondamentale. Conflit en Syrie, le Conseil de sécurité de l'ONU a réclamé hier que les agences humanitaires puissent avoir accès aux 18 000 Palestiniens bloqués dans le camp de Yarmouk près de Damas pour leur fournir une aide vitale et assurer leur évacuation en toute sécurité. Ce camp est assiégé notamment par le groupe État islamique.
À l'issue de consultations à huis clos, la présidente du Conseil, la Jordanienne Dina Kawar, a ajouté, sans autre précision, que les 15 pays membres du Conseil sont prêts à envisager les mesures supplémentaires qui pourraient être prises afin de fournir la protection et l'assistance nécessaires aux Palestiniens de Yarmouk. Les membres du Conseil ont condamné le plus fermement possible les graves crimes commis à Yarmouk par le groupe État islamique et le front al-Nusra et ont souligné la nécessité de punir ces crimes, a ajouté la représentante permanente de la Jordanie. Le groupe État islamique a lancé la semaine dernière une offensive sur le camp avec l'aide de djihadistes du front al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ils en contrôlent désormais une grande partie, selon l'AFP, mais dans le même temps, l'armée syrienne a renforcé son siège autour de Yarmouk et mène des raids aériens réguliers sur le camp.
Merci Michel Joseph. Il est 13h07.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Voilà, on finit avec le conflit au Yémen. Après les frappes aériennes, la coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite bombarde le port d'Aden dans le sud avec des navires de guerre pour essayer d'en déloger les rebelles chiites Houthis appuyés par l'Iran. Les nouveaux combats dans la région entre Houthis et partisans du président Abd Rabbou Mansour Hadi, soutenu par l'Arabie Saoudite, ont fait une centaine de morts. Les agences humanitaires attendent de pouvoir acheminer de l'aide aux civils affectés par les affrontements. La guerre a déjà fait près de 100 000 déplacés selon l'UNICEF. L'ONU annonce la prochaine reprise des pourparlers de réunification de Chypre. Ces négociations étaient à l'arrêt depuis 7 mois et vont reprendre donc à la faveur d'un apaisement des tensions au sujet des richesses énergétiques de l'île, d'après l'envoyé spécial de l'ONU, Espen Barth Eide, qui n'a pas précisé de date. Vous écoutez VOA Afrique. Nous rappelons le principal titre qui a constitué ce journal. Au Kenya, manifestation aujourd'hui à Nairobi en l'honneur des victimes du massacre de l'université de Garissa qui a fait, vous vous en souvenez, 148 morts la semaine dernière. Une attaque revendiquée par les islamistes somaliens d'Al-Shabaab. Les Kenyans en sont à leur troisième jour de deuil national à la mémoire des victimes. Par ailleurs, la police kenyane a arrêté un sixième suspect dans le massacre de Garissa et interroge désormais 5 Kenyans et un Tanzanien selon un document produit aujourd'hui par la police devant un tribunal de Nairobi. Ce tribunal a prolongé, selon l'AFP, de 30 jours la garde à vue de 5 suspects kenyans amené devant la cour et un Tanzanien toujours interrogé à Garissa, faisant droit à une demande de la police. Jusqu'ici, les autorités kenyanes n'avaient fait état que de l'arrestation de 5 suspects et n'avaient dévoilé des nationalités que de 2 d'entre eux, un Kenyan et un Tanzanien. Jean-Roger Billon, je vous retrouve dans moins d'une heure pour un nouveau bulletin d'information.
Soyez au cœur de l'info.